Eh bien, voilà, donc cette fois-ci, je vous dis bonsoir, bonsoir pour de bon. Lovecraft et l'autre, tel est le thème de la petite causerie que je vais vous faire. Moi, c'est-à-dire Christophe Thiel, j'ai un petit peu bossé sur Lovecraft. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les éditions Malpertuis. Je suis le co-dirigeant et il y a quelques années, bah, en 2007, on avait fait une anthologie lovecraftienne qui s'appelait HPL 2007. Je suis présent dans la monographie d'ActuSF Lovecraft au cœur du cauchemar. J'ai dirigé l'édition française de Je suis Providence, la biographie de Lovecraft. J'ai écrit le guide Lovecraft. J'ai traduit Le roi en jaune de Chambers. Et je suis aussi présent dans ce que vous reconnaissez peut-être en bas à droite, le magnifique coffret de chez Mnemos, la nouvelle intégrale Lovecraft. Donc j'ai réalisé l'index, un glossaire, quelques articles et voilà, quelques trucs. Donc voilà, je connais un petit peu le monsieur dont nous allons parler. Et alors, Lovecraft et l'autre, c'est Lovecraft, certes, mais qui est l'autre ? Donc, pour présenter brièvement ce dont j'ai l'intention de parler, identité et altérité, familiarité rassurante et inquiétante étrangeté, petite référence freudienne qui n'est pas tout à fait par hasard, certitude de soi et terreur de l'autre. Ce balancement dialectique et l'espace qu'il délimite est au cœur de la pensée de Lovecraft. On le retrouve aussi bien dans les discussions philosophiques et politiques qu'il entretient avec ses correspondants que dans sa fiction fantastique. Mais quel regard porter aujourd'hui pour apprécier à sa valeur le grand écrivain de l'imaginaire sans pour autant le suivre quand son chemin le mène de la peur de l'inconnu au rejet de l'autre ? Voilà des questions que vous reconnaîtrez peut-être qui sont souvent soulevées à propos de Lovecraft. Par quel bout faut-il le prendre, pour résumer ? Bien, on va essayer de voir ça. Alors, un petit mot sur Lovecraft, même si vous savez déjà de qui il s'agit, ce que je soupçonne. Lovecraft, pour moi, et peut-être pour vous aussi, c'est l'écrivain de la peur cosmique. C'est l'auteur qui se consacre, et j'emploie pas ce mot par hasard, puisqu'il considérait presque sa mission comme sacrée, à la littérature de l'imagination, à faire de cette littérature de l'imaginaire, de la littérature fantastique, une véritable forme d'art, et surtout à celle de la peur. Vous reconnaissez la citation, l'émotion la plus ancienne et la plus profonde de l'humanité. C'est ce qu'on trouve en ouverture de son essai sur la littérature fantastique, épouvante et surnaturelle en littérature. Jusqu'à Poe, et comme Lovecraft l'explique lui-même dans l'essai en question, jusqu'à Poe, la littérature de la peur repose sur le sentiment du danger physique. Et donc Lovecraft donne comme exemple les grands animaux menaçants, les grands loups, les grandes chauves-souris, qui ne sont peut-être pas pour rien dans la naissance des mythes, des loups-garous, des vampires. Le macabre, le sentiment d'horreur qui s'empare de nous au spectacle de la décomposition du corps, c'est-à-dire finalement spectacle de notre propre mortalité. Et la terreur métaphysique, qui est un petit peu plus tardive, qui est liée à la vision religieuse du mal. Donc le mal, en général, symbolisé par un petit bonhomme rouge avec des cornes qui règne sur des légions de petites créatures qui tiennent des fourches. Et donc tout ça peut venir vous visiter pendant la nuit, vous enlever, ça fait très peur. Et donc cette terreur religieuse, elle a alimenté tout un pan de la littérature de l'horreur, qu'on appelle le roman noir, le roman gothique, avec des chefs-d'œuvre comme Le Moine ou comme Melmoth l'Homéran, dont Lovecraft dit le plus grand bien. Mais pour lui, la littérature de l'horreur, pour être moderne et efficace, doit être débarrassée des conventions, des sentiments humains, des notions de bien et de mal, d'amour et de haine, et elle doit se faire cosmique. Elle doit prendre un sens par rapport à l'ensemble du cosmos et non plus par rapport au seul sentiment humain. Une citation fondamentale que vous connaissez peut-être déjà. « Toutes mes histoires sont basées sur l'idée fondamentale que les lois, les intérêts et les émotions partagées par l'humanité n'ont ni validité ni signification au niveau du cosmos. Pour moi, il n'y a que puérilité dans une histoire où la forme humaine et les passions, conditions et normes humaines sont montrées comme natives à d'autres mondes ou d'autres univers. » Donc là, il vise en particulier la science-fiction de son époque, où on traverse le cosmos en fusée, on arrive sur la planète XY, et là, on trouve des petits humanoïdes. Voire des humanoïdes femelles tout à fait séduisantes, comme dans le cycle de Mars de Rice Burroughs. Pour atteindre l'essence d'une réelle altérité, que ce soit en termes d'espace, de temps ou de dimension, il faut oublier l'existence même d'un certain nombre de choses. La vie organique, le bien et le mal, l'amour et la haine, et tous les autres attributs purement locaux d'une race négligeable et temporaire appelée humanité. Voilà la vision cosmique de Lovecraft exprimée en quelques mots, et pas n'importe qui, Farnsworth Wright, c'est le rédacteur en chef de Weird Tales, de la revue qui lui a acheté la plupart de ses nouvelles quand il a pu publier de façon professionnelle à partir du début des années 1920. Deux composantes de la peur cosmique auxquelles j'en ajoute une troisième. Fear of the unknown. On retrouve cette fameuse peur de l'inconnu citée en exergue d'épouvante et surnaturelle en littérature. La peur primale de l'indistinct, de l'incompréhensible, de l'inconnu tout simplement, de l'étranger. L'étranger au sens qui est étranger à notre humanité. Et puis, les... Bonsoir. Les monstres aliens. Hein, là, bon, le terme est un peu amusant. La peur de ce qui est visible mais non identifiable. Vous savez que les descriptions de monstres chez Lovecraft, eh bien, sont des patchworks de choses qu'il a été pêché dans la littérature scientifique, des descriptions de micro-organismes, de mollusques, etc., qu'il rassemble de manière à obtenir les choses les plus indescriptibles possibles. Et il fait parfois des gros efforts pour les décrire, comme dans Les Montagnes Hallucinées, où il y a une description clinique et scientifique. Mais quand vous avez, par exemple, la description de Cthulhu dans L'Appel de Cthulhu, c'est très impressionniste et on voit qu'il s'en dégage une telle horreur, une telle incompréhension qu'on a du mal à trouver les mots pour décrire exactement ce qu'on voit. Mais, en dehors de ces deux aspects, qui sont vraiment les composantes fondamentales de sa peur cosmique, on a aussi en arrière-plan la peur du chaos, alors rampant ou non, de la dissolution de la civilisation, la peur du non-civilisé. Là, on voit qu'on touche à d'autres choses qui sont peut-être un petit peu plus humaines. On va se retrouver vers des textes un peu moins cosmiques, comme l'horreur à Red Hook, et c'est là qu'on va toucher d'autres choses. Une autre citation intéressante, peut-être que vous la connaissez, c'était de monstrueuses et nébuleuses esquisses du pithécanthropoïde et de l'amibe, vaguement façonnées à partir de quelques limons puants et visqueux, issus de la corruption de la terre, rampant et suintant d'une façon qui ne suggère rien d'autre qu'une infestation de vers ou des créatures innommables du fond de la mer. Je pensais à une infinité de cuves cyclopéennes et malsaines, remplies à en vomir d'une pourriture gangréneuse et sur le point d'exploser et d'en inonder le monde. De quoi peut-il bien s'agir ? C'est une description hystérique, apocalyptique. On imagine un petit peu les Shoggoths ayant pris possession des cités des anciens des montagnes hallucinées et glissant de façon visqueuse par les portes et les fenêtres, etc. Eh bien, pas du tout. Les choses organiques, italo-sémitico-mongoloïdes, habitant cette abominable fosse septique, c'est-à-dire le Lower East Side de New York, ne pourrait être qualifié d'humaine au prix d'aucun effort d'imagination. Voilà, c'est une lettre à son ami Frank Belknap Long, dans laquelle il raconte qu'il est allé se promener dans les rues de New York et qu'il a rencontré des immigrés dont il n'a pas particulièrement apprécié le physique, la manière de se déplacer, le ton de la voix, les langues qu'il parlait, qu'il s'est retrouvé en un mot face à une étrangeté, à quelque chose d'inconnu, en plus que ça, mais Lovecraft, jusqu'alors, n'a pas vraiment été confronté à des populations très pauvres. Il a quand même été dans des quartiers privilégiés de la ville de Providence. Providence est très coquet, c'est très bourgeois, même quand on n'est pas riche comme il l'était à une période de sa vie. Et il se retrouve confronté à des étrangers pauvres et qui, vraisemblablement, font tout ce qu'ils peuvent avoir à faire pour survivre. Il en reçoit un véritable choc qui se traduit chez lui par une horreur, une répulsion. Et là, on voit que, par le biais de ces petites phrases en jaune, qu'on les enlève ou qu'on les ajoute, on se trouve à l'articulation de tout ce qu'on aime chez lui, de cette description hystérique, à la limite de la folie, de ces horreurs tentaculaires, et puis de tout ce qu'on déteste chez lui, c'est-à-dire de rejet de gens qui, après tout, ne lui ont absolument rien fait. Et donc, ça nous amène évidemment au sujet du racisme, un racisme qui est indéniable. Un sujet qui est et a souvent été maltraité. Alors, il plus souvent a été que est, parce que il y a eu beaucoup d'ignorance, de déni, de contournement. On n'en est plus là, mais voilà, on est quand même dans une bascule souvent entre deux attitudes symétriques qui s'alimentent l'une l'autre, ou bien un rejet total. Le racisme est présenté comme intégral à l'œuvre, donc on rejette en bloc Lovecraft et son œuvre. ou bien d'un autre côté, un déni total, un passage sous silence. Par opposition à l'attitude précédente, on accepte, on célèbre l'œuvre, donc on passe sous silence les aspects les plus gênants, les plus problématiques de la pensée, de la personnalité de Lovecraft. Et les raisons, pour mauvaises qu'elles soient, les raisons de ne pas en parler sont nombreuses, fréquentes, vous les avez sans doute rencontrées au moins une fois. Eh bien, c'est un sujet sans importance, c'est pas la peine d'en parler. Lovecraft n'est pas vraiment raciste. Il a l'air, mais en fait, il l'est pas vraiment. Un truc que j'ai découvert, qui mérite d'être dit, mais qui en fait est quand même hors sujet en question, dans les anciennes traductions françaises, le mot « negro », qui, dans l'anglo-américain, en particulier de son époque, signifie simplement « noir », eh bien, c'est systématiquement traduit par « nègre ». Bon, du coup, ça en rajoute une couche, mais sur un racisme qui est effectivement réellement présent. C'est un racisme purement privé qui ne transparaît pas dans la fiction. Alors là, je rentre un peu dans le détail. Il y a du vrai, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on perçoit, dans certaines nouvelles, on perçoit ce rejet raciste qui transparaît. C'est un racisme théorique, il ne s'en prend pas aux individus réels. Il y a déjà là un peu plus de vrai, c'est-à-dire que Lovecraft n'a jamais agressé, insulté une personne en raison de sa couleur de peau ou de son origine. Sa femme Sonia raconte tout de même que quand ils se baladaient tous les deux dans les rues de New York et qu'ils croisaient des gens dont le physique ne lui revenait pas, eh bien ils se raidissaient, ils serraient les mâchoires et il y avait sans doute quelque chose de visible dans son rejet. Alors, la mauvaise excuse, hein, le génie excuse tout, on sépare l'homme et l'œuvre, etc. Combien de fois ne l'avons-nous entendu ? Non, je pense que le génie n'excuse pas tout. Et puis, le contexte historique et culturel ferait que, de toute façon, à l'époque, tout le monde était raciste. Alors, ça, c'est à la fois pas tout à fait exact et un peu hors de propos, mais c'est pas non plus complètement idiot. Il est vrai qu'à l'époque, le racisme, non seulement à l'époque, mais le racisme est en fait constitutif de la structure sociale, économique et culturelle des États-Unis, et on en a encore le prolongement aujourd'hui. Les États-Unis sont quand même construits sur un double, ce que je me permettrai de qualifier de crime, qui est d'une part le génocide des Amérindiens, pas total puisqu'il en reste, mais enfin quand même en grande partie effectué, d'autre part l'esclavage des Noirs africains. Dans ces conditions, le développement d'un racisme est quasiment inévitable, il en est un aspect et une conséquence logique, puisque ce genre de système doit se justifier, et qu'il se justifie forcément par le fait que, eh bien, les gens qui sont dans une situation inférieure, c'est de leur faute. Ce racisme est partagé, en particulier si on prend les 20 ans, les 30 ans de la carrière de Lovecraft, est partagé par à peu près tout le monde, alors à des degrés très divers, mais on le retrouve en tout cas sur l'ensemble de l'échiquier politique, des libéraux aux conservateurs jusqu'aux populistes. Alors je reviendrai un petit peu sur ces populistes qui sont des gens qu'on a un petit peu oubliés aujourd'hui, parce qu'on est très axé sur le bipartisme politique des États-Unis. À l'époque, il y a une troisième force qui s'appelle le People's Party et qui a fini par être absorbée dans le Parti démocrate, qui a sa propre physionomie. De notables exceptions à ce racisme généralisé, parfois très proche de Lovecraft, James Ferdinand Morton, conservateur du musée d'histoire naturelle de Paterson dans le New Jersey, grand ami et correspondant de Lovecraft, est un militant antiraciste, libéral, militant pour la liberté sexuelle, militant pour la taxation, notoire. C'est, on pourrait dire, un militant de gauche. Donc comment se fait-il que quelqu'un qui a des convictions politiques si opposées à celles de Lovecraft ait pu entretenir avec lui une telle amitié ? Voilà, c'est une chose à noter. Lovecraft a avant tout une estime pour l'intellect de ce type, également pour sa personnalité. Il est évident qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Le contexte est également familial. On sait que Lovecraft est né dans une famille WASP, famille blanche, anglo-saxonne, protestante, appartenant initialement, puisqu'elle a assez rapidement connu, alors que Lovecraft était encore enfant, une dégringolade sociale, mais en tout cas appartenait initialement à l'aristocratie bourgeoise de Providence. Le grand-père, Whipple Phillips, était un homme d'affaires. Ses affaires marchaient bien. Il avait voyagé à l'étranger. Il avait connu Paris et Londres. Et c'est en fait à sa mort, causée vraisemblablement par des revers dans ses affaires qui lui ont occasionné une attaque, que les choses ont commencé à mal aller pour la famille, la famille de Lovecraft, et qu'ils ont dû en particulier quitter la grande et belle maison dans laquelle il y avait des serviteurs pour un logement beaucoup plus modeste. Donc évidemment, dans ce type de contexte, il y a un roman classique hein, qui montre la mentalité bourgeoise américaine, c'est Babbitt de Sinclair Lewis. Voilà, Babbitt, c'est un bourgeois américain pour qui les choses marchent bien, dans une petite ville, enfin une ville moyenne des États-Unis. Il travaille dans une agence immobilière et puis malheureusement, à un moment de sa vie, il n'est pas satisfait de la vie qu'il mène et il se met à se rapprocher de gens qui ont des idées dangereuses. Par exemple, il ne voit pas pourquoi on est tellement agressif par rapport aux Noirs. Et là, le reste des notables de la ville viennent lui remettre les idées en place en le menaçant à demi-mot de l'exclure. Donc voilà, dans ce genre de milieu, évidemment, les attitudes racistes ont leur place. Le père de Lovecraft était ce que... Il a transmis à son fils des attitudes qui sont assez connues, c'est-à-dire que c'était un anglophile acharné. Lovecraft, dans sa jeunesse, était un anglomaniaque, on pourrait dire, le genre à prendre plaisir à chanter « God Save the King » le 4 juillet et à déplorer que la colonie se soit séparée de son souverain légitime et à évidemment croire en la hiérarchie des classes sociales et des races. Dans la vie politique américaine, en particulier, le racisme a sa place bien établie. Chez les conservateurs, ça va de soi. La société est stratifiée, les gens qui ont le plus de mérite sont tout au sommet, et tout en bas, on retrouve les gens qui ont le moins de mérite, qui ont le moins de capacité. Et puis, à la limite, quand c'était permis, ils étaient esclaves. Maintenant, au début du XXe siècle, ça ne l'est plus, il n'y a plus d'esclavage, donc ce sont des petits employés, des ouvriers, etc. Mais plus on les tient à distance, mieux c'est. Chez les libéraux, il est toujours utile de rappeler cette citation du grand libérateur des esclaves, Abraham Lincoln, qui a écrit dans un discours « Il y a une différence physique entre la race blanche et la race noire qui interdira pour toujours aux deux races de vivre ensemble dans des conditions d'égalité sociale et politique. » Voilà, donc même chez quelqu'un comme Lincoln, qui a, on peut dire, libéré les esclaves noirs américains, on retrouve ce genre d'attitude. Et alors les populistes, c'est un cas à part. Donc je parlais tout à l'heure de cette frange qui mérite bien ce nom parce qu'ils ont à la fois les caractéristiques qu'on prête aux gens qu'on qualifie de populistes aujourd'hui, c'est-à-dire des idées d'extrême droite, et en même temps de véritables idées de justice sociale, de réduction des inégalités. Il y a en particulier un mouvement qui est soutenu par le populisme, qui est ce qui s'est appelé l'armée du bonus. Les soldats américains qui étaient allés se battre en Europe pendant la guerre du 14-18 s'étaient vus promettre un bonus de manière à pouvoir rentrer chez eux et vivre correctement. On ne leur a jamais donné. Ils ont fait une grande marche qui est allée jusqu'à Washington, ils ont campé dans les jardins, ils ont fini par être dispersés à coups de matraque. Voilà, ça c'est le genre de mouvement populiste qui existait à l'époque, et il y a deux noms dont Lovecraft parle beaucoup dans sa correspondance, qui sont Huey Long et Charles Coughlin. Alors Huey Long, c'est le gouverneur de Louisiane. C'est un homme qui a été qualifié de proto-fasciste ou de socialiste, parce qu'on hésite un petit peu, on va dire qu'il est un petit peu à la frontière entre les deux, qui a passé beaucoup de mesures sociales, en tout cas dans son État, et qui a fini assassiné. Charles Coughlin, c'est un cas un peu plus tranché. C'est un prêtre catholique qui a une émission de radio, et il commence sur des thèmes de justice sociale également, comme quoi on ne s'occupe pas assez des pauvres dans ce pays. Et puis, petit à petit, il est de plus en plus influencé par Mussolini, et il finit par se voir couper le sifflet pendant la guerre en raison de ses trop grandes sympathies pro-italiennes, pro-allemandes, qui, à l'époque de Roosevelt, ne sont plus du tout acceptables. Donc voilà ce que c'est que le populisme aux États-Unis à cette époque. On se doute, quand j'ai parlé donc des pensant pro-allemand du père Coughlin, que, bien entendu, le racisme tient sa place là-dedans et qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse exception. Le non-racisme, voire l'antiracisme, demeure l'apanage d'un groupe de militants, de gens qui sont très engagés, non seulement pour une justice sociale, mais pour une justice en général pour tous les Américains, quelle que soit leur couleur, comme James Morton, dont je parlais tout à l'heure. Alors, Lovecraft et les autres, on va parler de quelques autres qu'il a été amené à côtoyer. On va commencer par ses autres proches, que sont les Juifs. Alors, dans une lettre, Lovecraft nous raconte que Hope Street, c'est le lycée où il était, à l'époque où il était adolescent. Hope Street est proche des quartiers nord, assez proche pour qu'on y trouve un nombre considérable de juifs. C'est là que j'ai formé mon indéracinable aversion pour la race sémite. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'il y a des moments où son aversion n'est pas si évidente que ça. Les juifs étaient doués en cours, brillants et fourbes calculateurs, on voit les clichés, mais leurs idéaux étaient sordides et leur manière grossière. J'étais reconnu comme antisémite avant longtemps à Hope Street. Donc là, on est en 1916, il est encore tout jeune, il est encore dans sa période de petit coq, de monarchiste, d'aristocratiste et d'élitiste acharné, et sa période très à droite, on peut dire. Et donc là, il se vante que, étant adolescent, il était fortement antisémite. Et puis, voilà, c'est toujours étonnant, je sais bien que le coup de dire « j'ai un ami juif » ne tient pas forcément, mais on le voit quand même se lier avec des juifs tout à fait notoires et pas du tout cachés, comme par exemple Samuel Loveman, qu'il considère comme un très grand poète, qui est effectivement quelqu'un qui a publié de la poésie et avec qui il a entretenu une correspondance très fournie. Et puis, évidemment, une certaine Sonia Green, qu'il a fini par épouser. Alors là, il y a un truc intéressant. Elle lui dit périodiquement, mais Howard, je suis juive. Et il lui répond, non, tu n'es pas juive, tu es une Américaine. On voit que pour lui, la notion d'assimilation culturelle est importante à un point qui peut être parfois un peu rigide. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans des lettres plus tardives de la fin de sa vie, cette aversion caractérisée, qu'il qualifie d'interracinable, cet antisémitisme de jeunesse, eh bien, il n'est plus du tout aussi évident. Et il se met à dire que bah, peut-être, finalement, les Juifs, on les a mal jugés, parce que d'abord, il n'est pas question de nier leur intelligence. Tout le monde sait que ce sont des gens intelligents. Et puis, qu'après tout, on les côtoie depuis tellement longtemps, voilà, on en a dit du mal, mais finalement, c'est nos voisins, on les connaît, on n'a pas trop de raison d'avoir peur d'eux. Donc là, quelque chose d'un peu neutre. Alors, un cas intéressant, le voisin syrien. Quand Lovecraft s'installe à New York, après la première période où il vit avec sa femme, Sonia, dans un appartement confortable, au moment où les choses commencent à aller moins bien, au moment où Sonia doit se déplacer pour trouver un boulot, et où Lovecraft est obligé de vivre seul dans un appartement beaucoup plus petit, dans un quartier sordide, qui est à deux pas du fameux Red Hook, dont vous connaissez les horreurs, eh bien, à Clinton Street, dans un appartement, un brownstone, hein, un immeuble de pierre brune, qui décrit comme un véritable labyrinthe, dont il dira plus tard qu'il n'a jamais connu tous les recoins, il raconte qu'à un moment, un Syrien a occupé le logement voisin du mien. Il jouait d'étranges et monotones mélodies sur une cornemuse gémissante, et j'en ai fait des rêves macabres et incroyables. Dans les cryptes sous Bagdad et les corridors sans limite d'Eblis, sous les ruines d'Istakar maudites par la lune. Je n'ai jamais vu cet homme, et la possibilité de l'imaginer sous toute forme de mon choix ajoutait du charme à ces étranges cacophonies pneumatiques. Dans mes visions, il portait un turban, une longue robe de soie pâle, décorée de figures, et il avait perdu l'œil droit après avoir vu une nuit, dans une tombe, une chose qu'aucun œil ne peut voir et survivre. » Donc c'est Abdullah Lavred, hein, son voisin, voilà. Et il préfère l'imaginer comme ça plutôt que d'aller cogner à sa porte et lui dire bah, « Écoutez, voilà, j'aime bien votre cornemuse, mais quand même, vous pourriez en jouer un peu moins tard, etc. » On voit que cet autre, il y a une ambivalence. Il l'aime bien comme support de son imagination. Il n'éprouve pas un intérêt humain particulier pour lui. On pourrait penser qu'en tant que compagnon de misère, en tant que lui aussi obligé de vivre comme ce Syrien dans un immeuble modeste d'un quartier modeste de New York, ça pourrait créer une solidarité. Ça pourrait aussi avoir l'effet inverse. Lovecraft n'aime pas particulièrement se retrouver face à l'idée qu'il est dans cette situation et qu'il vit dans ce quartier pauvre. Donc voilà le bilan des rencontres de Lovecraft avec quelques groupes autres. Maintenant, Fear of the Unknown en pratique. Que va donner cette attitude si on essaie de la retracer à travers les nouvelles de Lovecraft, à travers sa fiction? Comment on va la retrouver? Eh bien, on va voir ça au fil du temps. Alors, on commence dans certains textes des années 1919-1920. Je ne sais pas si vous connaissez La Rue, c'est peut-être la plus mauvaise nouvelle de Lovecraft. Moi, je la trouvais exécrable. Elle n'est pas très intéressante et elle est bourrée de préjugés. Mais en tout cas, dans ces histoires de 1919-1920, les étrangers, les personnes venues d'autres pays, sont des criminels, tout simplement. Donc, par exemple, dans La Rue, c'est donc l'histoire d'une rue d'un village non nommé de Nouvelle-Angleterre qui est habité d'abord par de saints néo-anglais bien solides. Et puis petit à petit, il y a des étrangers qui viennent s'installer. Des visages sinistres, basanés, aux traits grossiers, aux regards furtifs. Et bien entendu, tous ces gens essayent de fomenter une révolution. Et voilà, la Providence intervient, on ne sait pas trop ce qui se passe. La rue s'écroule sur eux et ça ne marche pas. Donc on voit en tout cas qu'ils sont des gens peu recommandables. Dans Le Terrible Vieillard, c'est encore pire. On a trois personnes qui s'appellent Angelo Ricci, donc un Italien de toute évidence, Joe Czanek, un Polonais, et Manuel Silva, un Portugais. Donc ces trois-là, on nous explique avec un petite ironie second degré qu'ils ont un métier très intéressant, ce sont des criminels. Hein. Ils ont pour pratique d'aller chez les gens, de les torturer, pour leur faire avouer où ils ont mis leur richesse, et ensuite de partir avec. Et donc ils vont s'en prendre, évidemment, à la mauvaise personne, un terrible vieillard qui collectionne les armes. Manque de bol pour eux. Ce nouvel apport étranger et hétérogène qui est venu se déposer à l'extérieur du cercle enchanté de la Nouvelle-Angleterre, donc là, une survalorisation du pays natal pour mieux rabaisser les nouveaux arrivants, le mot cambrioleur est lâché. Donc voilà, on part de cette idée. Les éléments halogènes, les étrangers, sont des gens, comme dirait Donald Trump, hein, les autres pays nous envoient les pires du pire, des trafiquants de drogue, des violeurs, etc. Ben là, ce sont des cambrioleurs et des fauteurs de troubles. On élabore un petit peu plus en arrivant à 1925-1926. Nos étrangers ne sont plus de vulgaires criminels, ce sont maintenant des adorateurs du mal, ce sont des complices des puissances maléfiques. Là, on franchit quand même un petit pas dans le cosmique. On est toujours dans un portrait pas très sympathique, mais on est un petit peu plus cosmique. Red Hook, bien entendu. L'horreur à Red Hook, c'est le portrait de ces groupes de gens. Alors là, il y a une ironie très cruelle, hein, c'est que Lovecraft s'acharne sur les cures de Yézidi. Et si vous avez suivi l'actualité et la triste histoire de Daesh, vous savez que les Yézidis ont été particulièrement victimisés par cette mafia criminelle qui les considérait comme, tout à fait à raison, comme des non-musulmans, puisque c'est une religion beaucoup plus ancienne, et donc comme des gens à torturer, à réduire en esclavage. En tout cas, voilà, Lovecraft nous décrit cette arrivée d'étrangers comme... les sources mêmes d'une lèpre destinée à frapper et engloutir les cités et les nations, le mal cosmique avait pénétré ici, s'était nourri de rites impies. Voilà, les cures de Yézidi, adorateurs du diable. Alors bon, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Ils ont une religion un petit peu ancienne. Alors ce qui est intéressant, c'est que leur divinité, qui est parfois identifiée au diable, s'appelle Malik Taus, le sultan des Pans, ou le roi des Pans. Et c'est le surnom que Lovecraft donnait à son ami Edgar Hoffman Price, qui était un orientaliste et qui connaissait bien tous ces sujets-là. Nous avons aussi, bien sûr, l'appel de Cthulhu, et là, le mauvais rôle est joué par un curieux groupe de métis. Alors, on nous cite des Bravas, c'est-à-dire des gens originaires des îles du Cap-Vert, on nous cite des Polynésiens, des Mélanésiens, etc. Donc là, ces étrangers-là, ils sont en contact mystérieusement avec les puissances maléfiques. En l'occurrence, là, ça se dessine vraiment. Ce sont les grands anciens, c'est Cthulhu. Ils ont un contact particulier avec lui et en tout cas, ils souhaitent aller le libérer. Donc voilà, dans cette deuxième étape, l'étranger est passé du rôle de petit criminel à celui de complice du mal cosmique. Et de plus en plus cosmique quand on arrive au cauchemar d'Innsmouth. Parce que là, il y a une étape supplémentaire qui arrive. C'est que ces fameux étrangers, alors là, du coup, ils n'ont plus du tout figure humaine. Ce sont les profonds, sont des créatures absolument non humaines, venues d'on ne sait pas où, mais peut-être pas de cette terre, qui sont complices avec Cthulhu, bien entendu. Et alors là, arrive le pire du pire. Eux, ils voulaient qu'on se mélange. Et là, c'est là que le mélange racial... infuse sa petite dose de répulsion. Hein. Y a un terme qui était utilisé à l'époque, miscegenation, comme on pourrait dire, la mésalliance, le mauvais mélange, le mélange nuisible, qui était évidemment un terme extrêmement utilisé par tous les théoriciens racistes. On pourrait dire l'hybridation, hein, si vous voulez. Bien entendu, il s'agissait à l'époque de refuser tout mélange entre les populations blanches et noires, et en particulier tout mariage, tout contact sexuel, qui était vu avec une horreur indescriptible. Bon, chez Lovecraft, là, c'est un contact ou des mélanges avec une population qui est quand même assez bizarre et qui n'a absolument pas figure humaine. Et puis, nous arrivons aux années 1930. Et là, les étrangers qu'on rencontre dans la maison de la sorcière, qu'on rencontre dans celui qui hantait les ténèbres, eh ben, ils ne sont pas très malins. Et puis, surtout, ils ne sont pas éduqués et ils ont gardé les superstitions de leur pays. Alors, en l'occurrence, c'est le catholicisme. Donc, ils ont des crucifix, ils vont faire des prières à l'église du coin, etc. Mais n'empêche que ces étrangers superstitieux, ils sont quand même attentionnés. Parce que voilà, les Polonais qui habitent dans la maison de la sorcière et qui essayent d'aider le malheureux, je ne sais plus comment s'appelle, le héros Gilman, ils sont quand même très, très préoccupés de son bien-être et de lui éviter des attaques par la méchante sorcière. Et puis surtout, dans Celui qui hantait les ténèbres, on a cette scène surréaliste où il y a, dans le clocher de l'église en ruine, il y a une force absolument terrifiante, malodorante, destructrice, meurtrière qui est en train de s'agiter pour se libérer. Et pendant ce temps-là, on a deux petits groupes d'hommes trempés par la pluie qui se mettent à défiler sur la place et dans les ruelles autour de l'église, abritant sous leur parapluie des cierges, des torches électriques, des lampes à pétrole, des crucifix et toutes sortes d'obscurs charmes communs en Italie du Sud. Donc ces Italiens superstitieux, eh bien que morts de trouille, ils vont affronter Nyarlathotep, et quand même, c'est pas rien. Et alors là, on arrive, avec les montagnes hallucinées, à quelque chose qui est encore plus étonnant, qui, moi, m'a beaucoup étonné la première fois que je l'ai lu, et peut-être ça vous a fait ça aussi. C'est l'empathie que nous avons exprimée par Lovecraft, par les narrateurs de son histoire, face à des créatures qui n'ont absolument rien d'humain, à part le fait qu'on sait qu'elles sont, et ça c'est très significatif, intelligentes, civilisées et possédant une culture. Scientifique jusqu'au bout, qu'ont-ils fait que nous n'aurions fait à leur place? Quelle intelligence, quelle ténacité, quel affrontement de l'incroyable! Quoi qu'ils aient été, c'était des hommes. Voilà. Donc là, le machin à symétrie par 5, symétrie radiale, avec un corps en forme de tonneau, avec des tentacules, est qualifié d'homme. Non pas au sens d'être humain comme nous, mais d'être digne d'être considéré. Et puis, on arrive encore à « Dans l'abîme du temps », et là, on voit que l'horreur de l'autre devient de plus en plus cosmique. Elle se détache du côté simplement répugnant du corps de ces grandes créatures coniques avec une tête au bout d'un tentacule et des espèces de longs doigts bizarres. Et là, l'horreur vient de « On ne regarde pas impunément des êtres monstrueux faire ce dont on croyait les humains seuls capables ». C'est-à-dire que là, c'est la pure étrangeté de la scène qui montre ces choses qui non seulement ne sont pas humaines, mais n'ont même pas le physique d'un animal normal, puisqu'elles ont une morphologie complètement alien, eh bien, se déplacer, manipuler des livres, écrire dans des livres, ranger des livres sur des rayons de bibliothèque, ce qui, quand même, tout ça pour Lovecraft, c'est l'activité la plus humaine qui soit, en tout cas la plus proche de lui. Eh bien, tout ça, c'est fait donc, par ces créatures. D'où ce sentiment de dérangeante étrangeté. Et quand on arrive, alors là, je triche un petit peu avec la chronologie, mais en tout cas, pour moi, le sommet de cette courbe, c'est quand même La couleur tombée du ciel, où là, l'étrangeté n'a plus de visage, même le visage d'une créature tentaculaire, l'étrangeté n'a même plus de mots. Il n'y avait dans son délire pas un seul substantif précis, mais uniquement des verbes et des pronoms. Des choses bougeaient, changeaient, flottaient, les oreilles tintaient sous l'effet d'impulsions qui n'étaient pas que sonores. Quelque chose lui était enlevé, on l'a vidé de quelque chose collé à elle qui ne devait pas exister. On est au-delà des mots, les mots sont tombés dans ce trou qui a été percé dans le sol de la ferme des Gardner par la météorite qui est tombée, où ils sont tombés dans le puits empoisonné, et on a à la place des impressions floues, on court après les mots, on n'arrive pas à les trouver, ça n'a pas de visage, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de figure, ça a juste une couleur, et on essaye d'en faire le tour avec le peu de mots qui nous restent, on n'y arrive pas vraiment. Là, on est sur une répulsion de l'autre qui a, je dirais, perdu le visage de l'étranger humain sous laquelle on la reconnaissait très, très nettement au début. Alors maintenant, on a parlé de divers groupes que Lovecraft pouvait considérer comme étrangers. Une altérité un peu différente, Lovecraft misogyne. Pourquoi cette image ? Eh bien, très simplement, si vous lisez ces histoires, vous trouverez que les personnages féminins n'ont pas la part belle. On n'en rencontre pas beaucoup. Ils sont soit insignifiants, on peut dire que c'est quasiment des éléments de décor, soit monstrueux, dans certains cas, monstrueux, voire maléfiques. Pourtant, la vie de Lovecraft ne confirme pas cette image. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui fuyait les femmes, qui les détestait, qui en disait du mal, ou qui exprimait particulièrement qu'il souhaitait les voir maintenir dans des rôles traditionnels. Pas du tout. Les personnages féminins insignifiants, eh bien, si vous vous souvenez, il y a la maman de Charles Dexter Ward. Elle n'a pas de prénom. Le père de Charles Dexter Ward a un prénom, sa mère n'a pas de prénom. C'est Madame Ward. Il y a l'épouse corpulente de Thomas Olney dans L'étrange maison haute dans la brume. Donc, non seulement elle n'a pas de nom, bon, on connaît son nom de famille, hein, c'est le nom de son mari, elle n'a pas de prénom, mais elle est pénible, elle est embêtante. Elle raccroche son mari, elle veut le ramener sur terre alors que lui veut s'élever vers des choses différentes. Et puis il y a la veuve du marin Johansen dans L'appel de Cthulhu. Elle ouvre la porte, elle est en larmes, son mari est mort, le narrateur vient baragouiner quelques mots avec elle parce qu'elle ne parle pas bien anglais, il se fait remettre un cahier, il s'en va, elle referme sa porte, on n'en entend plus parler. Voilà, donc ça c'est très des personnages qui participent à peine à l'intrigue, qui jouent un rôle vraiment accessoire, qui n'ont même pas de dialogue. Et puis, nous avons aussi des personnages féminins, monstrueux, voire maléfiques. Bon, Lavinia Whiteley, la mère des jumeaux dans L'abomination de Dunwich, peut-on vraiment dire qu'elle est maléfique ? Pas tant que ça. Maintenant, Lovecraft nous décrit quand même avec complaisance son physique passablement mal fichu. Elle est plutôt victime, finalement. Hein, elle meurt prématurément, mais voilà, en tout cas, elle n'est pas traitée avec beaucoup d'indulgence. Nous avons la vieille sorcière, Kezia Mason, dans La maison de la sorcière, qui n'est vraiment pas sympathique, qui est une meurtrière, qui tue des bébés. Nous avons la Madame Azenath Waite, l'épouse d'Edward Derby dans Le monstre sur le seuil. Alors, non seulement elle est malfaisante, mais en plus, ce n'est pas vraiment une femme. Ni physiquement, parce qu'on nous dit qu'elle est descendante des hybrides d'Innsmouth, donc elle est un petit peu batracienne. Hein. Ni même mentalement, parce qu'on apprend entre les lignes qu'en fait, dans ce corps, l'esprit qu'il y a, c'est l'esprit de son père qui a pris sa place. Donc en fait, à l'intérieur, c'est un homme, c'est un vieux sorcier. C'est un peu hein, spécial. Et puis, dans une histoire qui est moins connue, les boucles de Méduse, autrefois connue comme la chevelure de Méduse, qui est une révision, nous avons la très belle femme fatale, Marceline Bédard, pour laquelle deux hommes manquent de s'entretuer, il y a beaucoup de sang qui coule, mais Lovecraft nous explique à la fin pourquoi elle était si mauvaise. C'est que c'était en partie une négresse. Voilà. La fin un petit peu tellement... Bon, c'est même pas tant le choc de ce terme raciste que finalement le fait que ça fait tomber à plat toute l'histoire. Ça, on voit pas ce que ça a de vraiment maléfique, au point que Auguste Derleth, quand il a édité l'histoire, il a changé la fin. Et il a rendu un peu plus menaçante et il a enlevé le mot qui choquait. Dans la réalité, qui sont les femmes que Lovecraft a côtoyées ? Ces femmes auxquelles il ne donne pas tellement de place dans sa fiction. Eh bien, nous avons par exemple une grande amie, Edith Minitor, qui est un personnage notoire du milieu amateur. Elle écrit beaucoup de choses. Elle se permet même d'écrire une nouvelle dans laquelle elle se moque de Lovecraft, elle le parodie, elle parodie ses tics de langage, ses manières de se comporter, et lui, il lit ça et il se marre. Nous avons Myrta Alice Little, une dame chez qui Lovecraft a séjourné plusieurs fois, comme quoi il n'avait pas si peur des femmes que ça, à l'occasion de rencontres amateurs. Winifred Virginia Jackson, alias Elizabeth Berkeley, il collabore avec elle sur deux petites nouvelles mineures, il consacre un essai à la poésie qu'elle écrit, il a beaucoup d'admiration pour elle. En plus, voilà, c'est une beauté, tout le monde croit qu'ils sont ensemble, mais pas du tout. Et puis, bah, last but not least, Sonia Green, qui est d'abord une amie du milieu amateur, une collaboratrice, hein, ils publient des histoires dans son fanzine, et puis ils finissent par se marier, quoi. Alors voilà, le mariage tourne allègre pour des raisons essentiellement des raisons d'argent, un petit peu à cause des tentes de Lovecraft, mais on a le sentiment qu'il n'aurait pas fallu grand-chose finalement pour qu'ils puissent rester ensemble et continuer à s'aimer, puisqu'apparemment ils s'aimaient. Donc ce qui est significatif à mon avis, c'est que pour Lovecraft, la femme est un homme comme les autres. Il n'y a aucune idée chez Lovecraft qu'une femme est incapable d'écrire du fantastique ou de comprendre quoi que ce soit au fantastique ou de faire de la littérature. Bien au contraire, il a des correspondantes avec qui il n'hésite pas à parler littérature. Ce qui ne leur plaît pas, c'est quand elle se dirige vers des genres qualifiés ou catégorisés comme trop féminins. Par exemple, une de ses clientes en révision a envie d'écrire de la romance. Lui, ça ne lui plaît pas du tout. Il la dirige vers le fantastique. Mais en tout cas, les femmes qu'il a comme correspondantes, eh bien, on est frappé par le ton tout à fait détendu, tout à fait naturel qu'il a dans ses lettres, dans les lettres qu'il échange avec elle. Alors, il y en a une qu'il connaît un petit peu moins bien. Il commence par l'appeler, donc elle s'appelle Helen Sully. Il commence par l'appeler Mademoiselle Sully et tout. Et puis, petit à petit, elle lui dit, vous savez, ça fait un moment qu'on correspond, on peut peut-être s'appeler par nos prénoms. Bah d'accord. Bon, chère Helen, etc. Aucun problème pour nouer amitié avec elle, voire même, quand il s'agit d'aller à une convention à Boston, et se faire héberger chez elle, ça lui pose aucun problème, il n'est pas du tout timide. Il les voit avant tout comme de purs intellects, comme toutes les personnes qui l'intéressent. Alors, ce qui est significatif, c'est cette sensation qu'il a d'héritage des civilisations grecques et surtout romaines et britanniques. On est accepté quand on manifeste son appartenance. Lovecraft revendique cet héritage avec orgueil, mais il est prêt à accepter comme ami toute personne capable d'en faire autant, homme ou femme. Et on peut se poser la question, en ce qui concerne la couleur de peau, question à laquelle nous n'aurons jamais de réponse, mais qui peut rester en suspens. Et j'arrive déjà à ma conclusion. Il me semble que de ce petit tour d'horizon, je peux dégager trois points assez importants. Le premier, eh ben voilà, on connaît cette citation hein, qui a été un petit peu plus ou moins reprise dans Star Wars, mais à l'origine, elle se trouve chez le philosophe arabe Averroès. L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Lovecraft a principalement un rejet pour des gens qui l'ignorent, même s'il s'accommode très bien de les ignorer, comme on a vu avec l'exemple du voisin syrien. Son attitude au sujet des Juifs en est un bon exemple. On peut, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une certitude, mais on peut raisonnablement penser que quand il est jeune et pétri de certitude, il se permet de rejeter les Juifs, tout comme tout le monde le fait autour de lui, et en particulier sa famille. Et puis, petit à petit, il en côtoie, il correspond avec eux, il lit leurs écrits, et il se rend compte que c'est des gens tout à fait fréquentables. Une ignorance, en tout cas, quand elle a lieu, qu'il conduit à un déficit d'empathie et une perception a priori méfiante de l'altérité. C'est son point de départ. Voilà, je reprends cet exemple des Juifs. Ce n'est pas une hostilité active qui va prendre la forme d'un combat. Les combats, il en est tout à fait capable. Il a mené, autant qu'il a pu, un combat en faveur de la prohibition et contre la consommation d'alcool. Non, ce combat contre des minorités qu'il n'apprécie pas, il ne le mène pas. Simplement, il dit que voilà, il y a des gens qui n'apprécient pas, ça lui paraît tout à fait normal, mais il ne va pas aller adhérer, par exemple, à un groupe anti-noir, ou etc. Donc voilà, cette question que je posais, si les circonstances l'avaient amené à correspondre, sans qu'il s'en doute initialement, avec un lecteur noir, s'il y en avait eu, je ne sais pas s'il y avait des lecteurs noirs de Weird Tales, c'est tout à fait possible. Voir un artiste de la Harlem Renaissance, ce mouvement culturel qui se passe en même temps, c'est-à-dire qu'au moment même où Lovecraft ressasse le cliché comme quoi les Noirs sont des personnes incultes, illettrées, incapables de création, et bien en même temps, à Harlem, il y a un mouvement culturel, artistique, qui est en train de créer de la peinture, de la littérature, de la poésie, etc. Bon, sans parler évidemment du jazz qui est en plein développement à cette époque. Alors, la place du racisme dans la création lovecraftienne, on ne peut ni dire que c'est une spécificité personnelle sans importance, une espèce de fantaisie qui n'aurait aucune répercussion sur rien, ni que c'est la clé unique ou le cœur indissociable de son œuvre, comme le font certains. Pour moi, c'est à la fois la forme extérieure visible, l'expression, le résultat de forces obscures présentes en lui, donc cette peur de l'altérité, cette peur de l'étranger, de l'inconnu, qui sont également à la source de sa création fantastique, mais celle-ci ne s'y réduit pas. Je pense que ce qui est très important, c'est ce dernier point sur lequel je reviens un petit peu après. Alors, une question qui peut paraître ridicule, mais que certains avancent, peut-on lire Lovecraft aujourd'hui malgré tout ça ? Donc, ce malgré, d'abord, ne doit être ni ignorance ni naïveté. Il ne s'agit pas, comme je disais tout à l'heure, de passer sous silence les choses problématiques. Il ne s'agit pas de s'imaginer qu'elles n'ont aucune importance. Mais pour moi, ce qui conduit à une réponse positive, oui, on peut toujours lire Lovecraft, l'apprécier, reconnaître sa grandeur, c'est une notion toute simple, celle de l'art. Lovecraft est attaché à la littérature en tant qu'art. Il consacre toute son énergie au travail considérable qui consiste à installer la littérature fantastique comme une véritable forme d'art, alors que ce travail a déjà été accompli, en particulier par Edgar Poe, mais cette étape est périmée. On ne peut pas refaire ce que Poe a fait, c'est-à-dire établir la littérature fantastique, la littérature de la terreur, comme, vous connaissez peut-être la citation, hein, on avait accusé Poe de copier des écrivains allemands comme Hoffmann, et il a dit « Et moi, je postule que la terreur ne vient pas de l'Allemagne, mais de l'âme humaine ». Et donc, de là, il tire une sorte de grandeur de la littérature fantastique qui fait appel à des choses au fond de notre âme. Tout ça est très bien, mais c'est du passé. On ne peut pas revenir à Edgar Poe. Il faut trouver une nouvelle manière d'instaurer la grandeur du fantastique. Et c'est le travail de Lovecraft. Bon, comment il le fait ? De façon très simple, hein. Le soin de l'écriture, le soin apporté à la rédaction des scénarios, le soin apporté à trouver les idées, bref, le travail. Alors, pour bien comprendre ça, je vais faire la comparaison avec une autre forme de production culturelle qui, elle, est tombée dans une obsolescence que je qualifierais de bien méritée. Il s'agit de l'imaginaire colonial. On a du mal, peut-être, à penser ça aujourd'hui, bien qu'il y ait encore des gens qui ont envie de d'écrire des histoires sur le thème des croisières noires et jaunes organisées par Citroën, qui étaient en plein dans cet esprit-là. Mais il fut un temps, à l'époque de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, où l'exotisme colonial, l'aventure coloniale, était quelque chose qui faisait rêver, et qui passait pour purement excitante, purement émerveillante, et dans laquelle eh bien, tout ce que cette histoire peut avoir de sanglant était totalement occulté. L'autre, bien entendu, dans cet imaginaire-là, l'autre est au premier plan, et il est totalement folklorisé, kitschisé, transformé en accessoire, déshumanisé. L'autre, c'est la tribu des méchants sauvages, c'est le bon serviteur, c'est enfin, voilà, toutes les choses qu'on trouve entre autres chez Kipling, hein, par exemple, qui est un grand centre de l'épopée coloniale anglaise, par exemple, des figurants, des objets. Et bien entendu, tout ça n'est pas purement innocent, même si ce n'est pas l'intention explicite du littérateur, l'idée n'est pas seulement d'amuser le public, mais de donner une illustration, une justification à la domination et à l'exploitation. Notre époque n'est plus dupe, c'est-à-dire qu'on ne peut plus lire toutes ces belles histoires merveilleuses de la colonisation et y voir de pures aventures. On voit à travers, on voit les ficelles, on voit ce côté justification d'un système qui lui-même n'a rien de merveilleux. La différence avec Lovecraft, c'est que lui, il conserve, et le fait que ce soit un petit groupe pas négligeable ici en est un élément, Lovecraft conserve toute son actualité. Pourquoi ? Parce que le fantastique lovecraftien n'a pas comme ressort les idées politiques et sociales de son auteur, alors que sa vision philosophique plus large y tient une très grande place en arrière-plan. Cette vision philosophique, c'est son matérialisme mécaniste, C'est l'idée qu'il n'y a pas de force divine, rien ne va venir au secours de l'être humain s'il est menacé par des forces cosmiques. Le cosmos n'est que le résultat mécanique du jeu de forces aveugles. Et ça, c'est quelque chose qui a une extrême importance. On peut même dire que Cthulhu est d'une certaine façon la personnification, la concrétisation de cette idée. Et l'objectif, surtout, chose très importante, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif du fantastique lovecraftien est artistique. Non pas véhiculer une théorie raciste, non pas véhiculer un message qui serait « il convient de conserver les gens de telle couleur à l'écart de ceux d'une autre couleur », mais véhiculer à son lecteur des impressions, des ressentis, et en tout premier plan, cette sensation de peur cosmique dont il a fait l'axe central de son œuvre. Parce que aussi, et là ça nous concerne plus nous-mêmes lecteurs, une partie du contexte mental qui est au fondement de cette sensation, l'infériorisation, la domination des peuples autres, la crainte du mélange, la crainte de l'hybridation des races, a perdu sens et réalité. Tandis qu'une autre partie, celle du frisson cosmique, celle de la peur de l'inconnu, garde sa fraîcheur. Et c'est cette autre partie-là, cette obscure perplexité angoissée face à l'incompréhensible, qui conserve l'œuvre de Lovecraft vivante pour nous. Pour parler plus clairement, quand nous lisons Le cauchemar d'Isthmos, nous n'y lisons pas une fable contre le mélange des races, nous y lisons une histoire d'horreur basée sur l'irruption totalement inattendue de créatures venues d'on ne sait où, qui arrivent de sous la mer et qui viennent s'installer dans les tréfonds de notre civilisation polissée. Je crois que c'est tout.